Bonsoir à tous. Aujourd'hui au sommaire de Sahel+. Mali, visite du médiateur de la CEDEAO Blaise Compaoré qui se dit confiant dans la réconciliation nationale. Nous serons au Soudan du Sud pour notre dossier.
On a déjà eu deux hôpitaux MSF qui se sont fait détruits, qui se sont fait piller, qui se sont fait brûler. La conséquence, c'est des milliers de personnes qui sont privées de soins de santé.
Le Soudan du Sud, où l'ONG Médecins sans frontières s'alarme des niveaux terrifiants de violence, notamment contre les infrastructures de santé et les blessés. Page culture, les capitales africaines manquent toujours de salles de cinéma. Et enfin, nous entendrons les réactions de citoyens nigériens suite au trafic présumé de nourrissons entre le Niger, le Bénin et le Nigeria. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir, Jacques Aristide avec vous, ravi de vous retrouver pour ce dernier point sur l'actualité en ce mardi 1er juillet 2014. La Coupe du Monde au Brésil pour démarrer. Le dernier quart de finale se joue en ce moment même. L'équipe américaine affronte ce soir la Belgique, favorite sur le papier, mais les Américains n'ont pas encore dit leur dernier mot. Pour l'instant, le score est de 0 partout. La deuxième mi-temps va reprendre dans quelques petites minutes. Quant à l'Argentine, elle a sorti la Suisse au bout d'un match rempli de suspense. Angel Di Maria a qualifié son équipe en inscrivant le seul but du match, 1-0 presque à la fin de la prolongation. Au Nigeria, au moins 15 personnes ont été tuées aujourd'hui dans l'explosion d'un camion piégé sur un des principaux marchés de Maïdougouri, fief de Boko Haram dans le nord, déjà touché par de multiples attaques ces derniers mois. Jean-Roger Billon.
L'attentat s'est produit dans un marché populaire de Maïdougouri. Les explosifs ont été placés sous du charbon de bois à l'arrière d'une fourgonnette. La déflagration était si puissante, selon les témoins, qu'elle a projeté certains corps sur les toits des bâtiments et mis le feu à plusieurs véhicules. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les autorités n'ont pas tardé à accuser Boko Haram. Le groupe radical islamiste qui a ses racines à Maïdougouri est blâmé pour la mort de milliers de personnes depuis 2009. Le dimanche, des militants islamistes présumés ont tué plus de 50 personnes dans 4 villages autour de Chibok, la localité où plus de 200 lycéennes ont été enlevées à la mi-avril. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a condamné hier les attaques horribles perpétrées par Boko Haram dans le nord du Nigeria.
En République centrafricaine, au moins 16 morts et 4 blessés dans des affrontements entre des ex-Séléka et l'armée ougandaise déployée dans l'est du pays pour lutter contre la LRA. Idriss Fall.
Les affrontements ont débuté dimanche suite à une incompréhension entre militaires ougandais et ex-Séléka. Les soldats ougandais se sont opposés à l'installation d'une barrière dans le village de Kono où la présence de la LRA est régulièrement signalée. Les premiers accrochages ont duré quelques heures et ont fait un mort dans chaque camp. Une équipe des ex-Séléka dépêchée hier en renfort est tombée dans une embuscade tendue par les soldats ougandais à quelques kilomètres de Kono. Bilan, 14 combattants Séléka tués, un véhicule calciné et 4 blessés côté ougandais. Le calme est revenu ce matin dans la localité. Par ailleurs, le premier ministre André Zapayeke est rentré cet après-midi à Bangui après une tournée en Turquie et en France.
Washington a décidé d'imposer des sanctions contre les ADF, un groupe rebelle ougandais actif en République démocratique du Congo. Les insurgés sont accusés de viol, meurtre et enlèvement, ciblant les enfants. Les États-Unis emboîtent ainsi le pas au Conseil de sécurité de l'ONU, qui a également pris hier des sanctions contre les rebelles ADF. Nouvelle grève illimitée en Afrique du Sud à l'appel de Nomsa, le plus gros syndicat des métallurgistes. La grève concerne quelque 220 000 employés du secteur de l'acier et des constructions mécaniques. Les grévistes sont en quête de meilleurs salaires, ignorant les appels à la retenue alors que le pays est au bord de la récession après 5 mois de conflit social dans les mines de platine. Al-Shabaab a revendiqué une série d'attaques à Mogadiscio, la capitale somalienne, rapporte l'AFP. Les insurgés islamistes disent avoir tué plusieurs soldats gouvernementaux. 5 attaques ont été signalées hier, dont l'explosion d'une bombe dans un marché de la capitale. Bousculade dans une école de Marrakech au Maroc, d'après l'AFP. Le drame qui a fait 2 morts et 10 blessés s'est produit hier soir lors d'une prière au premier jour du Ramadan. L'origine de l'incident est indéterminée.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Les troupes israéliennes ont attaqué à l'explosif les domiciles à Hébron des deux hommes soupçonnés d'avoir enlevé trois adolescents israéliens. Les corps de ces jeunes ont été retrouvés lundi, près de trois semaines après leur disparition. La tension est de nouveau montée d'un cran. L'État hébreu accuse le Hamas, groupe militant palestinien, qui a toutefois nié toute implication dans le rapt et meurtre des trois étudiants. Ce mardi, l'aviation israélienne a bombardé la bande de Gaza alors que des soldats ont mené des raids en Cisjordanie. En Irak, le Parlement a levé aujourd'hui sa séance dans le chaos sans enclencher le processus de formation d'un gouvernement pourtant nécessaire face à l'offensive djihadiste qui menace le pays d'éclatement. La séance a été émaillée d'invectives et de récriminations, notamment à l'encontre du Premier ministre sortant, Nouri al-Maliki, dont les chances de briguer un troisième mandat s'amenuisent devant l'avancée des insurgés menés par les djihadistes sunnites de l'État islamique et l'échec de l'armée à la contenir. Et puis rapidement en France, une première pour un ex-président de la République. Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue aujourd'hui dans une enquête ouverte notamment pour trafic d'influence présumé. Et voilà donc pour ce flash.
Retour à Sahel Plus et nous ouvrons avec le Mali. Le respect et l'application de l'accord du 18 juin 2013, signé entre le Mali et les groupes armés, c'est le but de la visite du président burkinabé au Mali. Blaise Compaoré a entamé hier lundi une visite de 48 heures. En plus de Bamako, Blaise Compaoré et Ibeka se sont rendus aujourd'hui à Ségou, la deuxième ville du Mali. Une visite de travail placée sous le signe de la coopération Sud-Sud, mais aussi de la relance du dialogue entre Bamako et les groupes armés. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Cette visite du président du Faso va au-delà des liens séculaires, géographiques, historiques entre le Mali et le Burkina Faso. Blaise Compaoré.
Mettant l'accent sur les échanges que nous devons avoir aussi pour voir comment consolider nos économies. Parce que nous sommes parmi les rares pays enclavés dans le continent qui n'ont pas d'accès à la mer, qui sont aussi pour nous dans un Sahel profond. Cela veut dire que nous avons des responsabilités qui sont plus grandes.
Très contesté à Bamako, parce qu'il héberge les rebelles du MNLA, cela n'a pas empêché le président Blaise Compaoré d'évoquer l'application de l'accord de Ouagadougou.
Que les Maliens, aujourd'hui, veulent la paix, veulent se réconcilier, veulent trouver, par le dialogue politique, des solutions aux crises passées. Pour nous, aujourd'hui, il doit être utile, effectivement, d'aller vers la préservation des acquis déjà de l'accord du 18 juin.
Pour Blaise Compaoré, l'accord du 18 juin 2013 peut faire avancer les pourparlers et très rapidement.
Qui indique bien que les Maliens veulent vivre dans un espace unitaire, unifié, veulent vivre sans extrémisme, veulent vivre réconciliés dans la République, veulent arrêter la guerre, organiser bien sûr le cantonnement, le désarmement, ramener les déplacés, les personnes réfugiées. C'est dire que tout est balisé pour que nous allions vers l'optimisme.
Le président du Faso dira enfin qu'avec l'application de l'accord de Ouagadougou, la CEDEAO et la communauté internationale aideront le Mali à sortir de sa crise. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Bamako, vous nous écoutez sur le 102 FM. Notre dossier est consacré au Soudan du Sud. Aujourd'hui, l'ONG Médecins sans frontières, ou MSF, s'alarme des niveaux terrifiants de violence, notamment contre des malades, des blessés et des infrastructures de santé. Des patients ont même été tués sur leur lit d'hôpital. Nous avons joint Raphaël Gorgeux, il est le chef de mission MSF au Soudan du Sud.
Nous avons pu voir là depuis le début du conflit et même avant au Sud-Soudan que les soins de santé étaient assez peu respectés avec des hôpitaux qui sont soit pillés, soit détruits, des travailleurs de santé qui sont actuellement menacés. Donc on voulait faire le point sur des données et des événements qu'on a pu enregistrer sur les six derniers mois du conflit. Et l'idée de ce rapport-là, c'est d'amener de l'attention sur ce sujet de la protection des soins de santé au Sud-Soudan, mais également de continuer à engager un dialogue avec toutes les parties prenantes au conflit, mais également avec d'autres organisations, pour essayer justement de trouver des solutions et faire en sorte que les soins de santé au Sud-Soudan peuvent être mieux respectés.
Est-ce que la situation au Sud-Soudan est particulière et différente? Est-ce que vous avez constaté plus de violence?
Chaque contexte est de fait très, très différent, mais la situation au Sud-Soudan est très alarmante, d'un point de vue humanitaire, avec des besoins très importants. C'est vrai que le conflit sur ces 6 derniers mois a aussi montré des violences très, très inquiétantes. À titre d'exemple, on a déjà eu 2 hôpitaux MSF qui se sont fait détruits, qui se sont fait piller, qui se sont fait brûler. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'un hôpital qui est détruit, une ambulance qui est brûlée, un staff de santé qui est tué. La conséquence, c'est des milliers de personnes qui sont privées de soins de santé.
Est-ce que cette situation pourrait vous conduire à arrêter de travailler au Sud-Soudan, à vous retirer du pays ?
MSF, depuis 6 mois, a énormément augmenté ses opérations dans le pays. En effet, les besoins sont très importants. Aujourd'hui, il n'y a absolument pas de question sur la présence d'MSF au Sud-Soudan. Mais après, si on regarde projet par projet, hôpital par hôpital, un hôpital détruit, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens pour arriver à reconstruire quelque chose, arriver à apporter justement de l'assistance aux différentes personnes sur place. Donc il n'est pas question pour MSF aujourd'hui de quitter le Sud-Soudan. Par contre, on voulait vraiment souligner l'impact que peuvent avoir des attaques directement liées aux structures de santé.
Et selon vous, que manque-t-il pour que cette situation s'améliore ?
Alors, ce projet, on l'a lancé depuis longtemps au Sud-Soudan, essayer d'avoir une discussion ouverte avec toutes les parties en conflit. Donc c'est quelque chose qui doit absolument continuer. C'est comment on peut assurer un dialogue, comment on peut assurer que des messages forts soient passés sur les terrains des opérations militaires pour que chaque soldat, chaque combattant arrive à comprendre ce que signifient des structures de santé et faire en sorte que leur commandement aussi passe des messages très clairs sur le fait que ces centres de santé doivent être respectés.
Et est-ce qu'à un moment, il va falloir que vous ayez des forces de sécurité qui vous permettent de travailler en toute sécurité ?
Médecins sans frontières essaie le plus possible d'éviter justement d'avoir des escortes militaires. C'est quelque chose qu'on ne veut pas au Sud-Soudan. On croit aussi dans cette nécessité justement de travailler en collaboration avec toutes les parties en conflit afin de pouvoir travailler sur cette problématique principale qui est que sont les attaques sur les soins de santé. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne considère pas pour le Sud-Soudan. Mais par contre, l'impact que ça peut avoir, s'il y a des nouveaux conflits demain, s'il y a des nouveaux conflits qui se rapprochent d'une ville où on est, c'est que potentiellement, on va devoir évacuer nos équipes, ce qui va laisser derrière justement des milliers de personnes sans accès aux soins. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans une zone au nord du pays qui s'appelle Nassir, où on a dû évacuer il y a 2 mois. Aujourd'hui, c'est 300 000 personnes qui n'ont pas accès à l'hôpital. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui s'assurer d'une sécurité minimum pour reprendre nos activités sur place.
Raphaël Gorgeux, chef de mission MSF au Sud-Soudan. Petit focus sur le cinéma aujourd'hui dans notre page culture. Les salles de cinéma manquent toujours drastiquement dans les grandes capitales africaines. Et malgré quelques réouvertures de salles ici et là, il est toujours dur de profiter du 7e art en Afrique. Et ce, même à Dakar, l'une des grandes capitales culturelles africaines. Pour le promoteur de spectacle Hugues Diaz, cette situation pourrait toutefois s'améliorer prochainement.
Ce qu'il faudrait dire d'emblée, c'est que des solutions sont en train d'être trouvées. Il y a des projets de construction de salles de cinéma qui verront bientôt le jour, 3 salles d'exclusivité. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que l'État n'est pas resté les bras croisés. L'État, cette année, en 2013, va réhabiliter 4 salles de cinéma. 4 salles classiques, hein, standard comme on avait, de 1800 places. Donc il y a 4 salles qui vont être touchées par un programme d'équipement et de réhabilitation. Et ces salles se trouvent dans des quartiers populaires, notamment à la Médina, à Grand Yoff, à Dakar, Dakar Gueltapé, et la dernière salle se trouve à Pékin. Donc vous savez, il y a eu des solutions alternatives, hein, notamment le cinéma itinérant. Aujourd'hui, le Sénégal a vraiment capitalisé une expérience avec 3 opérateurs. Hein, si vous permettez de les citer, c'est à la fois Mobiciné qui interviennent dans la zone de Dakar, le réseau des cinémas numériques ambulants, et aussi de festivals donc avec Africa Bok. Mais néanmoins, il y a des espaces comme les centres culturels régionaux, donc qui sont en train de travailler pour un réseau de distribution et de diffusion des films sénégalais, africains et même étrangers que le Sénégal aura à recevoir. Donc nous sommes dans une phase de structuration, mais surtout de réconciliation du 7e art avec le public. Donc aujourd'hui, avec des diffuseurs, quelques expériences sont tentées qui, je crois, sont en train de porter des fruits.
Hugues Diaz, promoteur de spectacle à Dakar.
Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Je dis personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça.
Suite de l'affaire du trafic présumé de nourrissons entre le Niger, le Bénin et le Nigeria, dont nous vous avons déjà parlé dans Sahel+. Une affaire qui fait grand bruit à Niamey, mais que pensent réellement les citoyens? Écoutons quelques réactions au micro de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
C'est une réaction de profonde indignation, puisqu'il s'agit quand même de la traite des personnes, et l'une des pires formes de traite, puisqu'il s'agit des bébés. Cette pratique est une pratique honteuse et criminelle, et nous estimons quand même que la justice doit aller jusqu'au bout pour que les coupables soient châtiés, afin de prévenir cette perversion de notre société, une perversion extrême qui ne saurait être tolérée par la conscience, je dirais, religieuse des Nigériens qui, pour la plupart, sont musulmans.
Et cette question, là où ça nous touche, on parle d'implication des personnalités qui pensent diriger ces pays-là un jour. C'est extrêmement grave. Vraiment, nous demandons à l'État de prendre toutes les mesures pour punir d'abord les auteurs et les co-auteurs de cet acte criminel, cruel et dégradant, qui n'a même pas de sens quand même dans un pays musulman. Et que le gouvernement qui n'arrive pas à punir ça, c'est-à-dire il a trahi son serment.
Comment pouvez-vous imaginer que des gens qui donnent l'exemple aux autres, des gens qui, c'est eux qu'on regarde pour agir, se comportent de cette manière? Ici, il s'agit d'une fraude. Il s'agit de quelque chose d'ignoble que l'on n'a jamais vu. Ça jure avec les principes de la religion, ça jure avec les principes moraux de toutes sortes que nous connaissions. Si il n'y avait pas des gens du pouvoir, ils allaient dire que c'est une manipulation. Mais il se trouve ici que des personnalités proches du pouvoir y sont impliquées. Alors, cette fois-ci, pour de bon, il faut que les Nigériens sachent que les problèmes judiciaires sont judiciaires et il faut les considérer comme tels. Les problèmes politiques sont à part, il faut les considérer comme tels.
C'est pathétique, c'est regrettable et c'est vraiment inattendu. C'est inattendu, je pense que c'est vrai, il y a les sentiments d'avoir une progéniture et un sentiment très grand. C'est un vœu très ardent, mais c'est des choses qui sont bannies par la religion et vraiment personne ne s'attend à ce que des musulmans partent payer, puisqu'il faut le dire, les termes payer des êtres humains, il y a du faux à tous les niveaux. Mais le plus grand regret qu'on a, c'est de voir que c'est les femmes qui ont été arrêtées, notamment par rapport à certaines personnalités. On considère que c'est les femmes qui sont responsables alors que leurs maris sont en train de dormir chez eux.
Eu sigo só na minha onda, cê não vai me acompanhar. Eu sigo só, não quero sombra, nem ninguém pra me assombrar.
Sahel+, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Michel Joseph. À la console, Wojtek Journiak. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec une très jolie collaboration entre le musicien malien Toumani Diabaté et deux musiciens brésiliens, Arnaldo Antunes et Edgar Scandura. Écoutons « Se não vai me acompanhar » tiré de leur album commun « A Curva da Santura ». Notre clin d'œil à la Coupe du Monde.
Deletei minhas palavras pra você não rastrear. Sou mais sobrevivente.
Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.